Vous écoutez RTL.
Il est 11h04, vous êtes sur RTL, à la bonne heure commence bien sûr avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Marie, et on vous retrouvera Marie Guerrier à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Voilà, et nous plongeons dans à la bonne heure en direct et en public sur RTL avec notre invité Frédéric Lenoir.
11h-12h30, Stéphane Bern, à la bonne heure.
Je vais vous présenter dans un instant Frédéric, mais d'abord je présente mes petits camarades. Vous devriez lui donner une petite initiation au bouddhisme pour calmer ses colères soudaines et répétées. C'est Joël Goron.
Merci Stéphane.
Bonjour Joël.
Mais c'est vrai que j'en aurais besoin peut-être.
Mais oui, vous n'êtes pas zen.
Non, pas vraiment.
Vous n'êtes pas vraiment zen. Juste après le journal de midi, comme tous les mardis, le canular téléphonique des lycées Moon. Les vacances de la Toussaint l'ont visiblement inspiré puisqu'il sera question de cercueil. Preuve qu'on peut rire de tout. Avec nous également Régis Maillot. Bonjour Régis.
Bonjour. Écoutez, je voudrais quand même saluer, puisqu'il est question de philosophie aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un grand philosophe du bonheur, c'est Jean-Claude Van Damme également.
Ah oui,
oui.
Très bien.
Qui a dit beaucoup de choses, par exemple, je vous en cite une. Un biscuit, ça n'a pas de spirit, c'est juste un biscuit, mais avant c'était du lait, des œufs, et dans les œufs, il y a la vie potentielle. Et ça, ouais, on ne dit pas assez.
Ah, ouais. D'accord.
C'est pas médité.
La concurrence,
c'est un c'est vrai que... zen, ça.
La concurrence est rude.
Non, mais c'est vrai, cela dit, les enfants qui... Je ne sais pas si on donne encore des goûters avec des petits lus aux enfants. Mais bon, un petit biscuit, ça ne fait jamais de mal.
Jamais.
Éric Dussard est avec vous.
Bonjour. Bonjour à tous.
Alors, il a revêtu sa tenue de paysan parce que son zapping, c'est l'amour est dans le pré.
Oui, alors l'amour qui s'enlise dans le pré cette année, ça n'en finit plus. Hein.
Ah,
je crois qu'on est au 1292e épisode de la saison. Bon, ça marche toujours autant. Et ça commence à mordre à l'hameçon, si j'ose dire. Vous entendrez ça tout à l'heure.
Très bien.
Et puis, attention, révélation, Secret Story cette année. Dans Secret Story, un secret, un rapport avec un membre de l'équipe.
Ah oui.
Découvrirez qui laquelle... tout à l'heure.
Quel membre de l'équipe?
Non, j'ai bien parlé d'un membre de l'équipe. Ce n'est pas le membre auquel vous pensez.
Non. Donc c'est pas moi, ça tombe bien. Ouf. Vers midi 20, le test à l'aveugle de Patrice Carmouze, consacré aux chansons et à la philo.
Oui.
Alors double interrogation, il faudra reconnaître le chanteur et puis à quel philosophe il nous fait penser.
Il y aura la queue leu alors.
Oui. Ah, ouais. Il y a la queue leu. Alors il faut avoir choisi déjà par le 74-900, par SMS hein, ou au 32-10 en appelant RTL. Quelle équipe à laquelle vous voulez participer?
Si vous voulez gagner sur la philo...
Soit RM, c'est le reste du monde, soit SB, c'est Frédéric Lenoir et moi. Et puis, à 11h40, notre invité surprise, très étonnant, un enseignant qui utilise la télé-réalité pour s'adresser à ses élèves. Ouais. C'est original.
C'est une façon de faire de la philo aussi.
Oui, ouais,
pourquoi pas.
Eh bien, je vous présente notre invité. Il touche tous les cénacles. Lui qui a popularisé l'étude de la philosophie et la juste approche des religions dans un souci de nous aider à vivre et à trouver la joie et le bonheur. Avec sa manière toujours passionnante de distiller son gai savoir, ce disciple de Jung et Lévinas, revenu métamorphosé d'un voyage au Tibet sur les pas d'Arnaud Desjardins, qui a aussi sauvé, on peut le rappeler un temps, la chanteuse Dalida, s'est voué depuis longtemps à ses trois maîtres de vie, Socrate, Jésus et Bouddha, devenant, chemin faisant, un dispensateur de bonheur de vivre qui nous invite à laisser éclater la puissance de la joie. Amen. S'il a convaincu les cercles intellectuels branchés sur France Culture et les lecteurs du monde des religions, il ne cesse de gagner en audience par sa défense de la cause animale, de la cause écologique, qui, après avoir convaincu les parents, s'attaque maintenant à un nouveau marché porteur, les enfants. Même si certains pensent encore que la philo en terminale, c'est beaucoup trop tôt parce que les pauvres, ils ont l'esprit encore en vrac. Hein. Voilà. Il publie un livre qui fera date et s'annonce déjà comme un best-seller, « Philosopher et méditer avec les enfants », publié chez Albin Michel avec en cadeau bonus un CD de méditation guidée pour retrouver sa concentration et sa réceptivité sensorielle, indispensable à toute réflexion. Avec nous ce matin, celui qui voit la vie en rose, Frédéric Lenoir. Merci d'être avec nous. Donc maintenant, un nouveau public, hein, les enfants.
Ah non, le public, c'est les parents.
C'est les parents,
les parents. Ben oui, qui vont, le livre s'adresse aux parents, s'adresse aux éducateurs, oui. S'adresse aux enseignants. C'est pas les enfants de 8 ans qui vont lire le livre, même s'ils
même
peuvent
s'ils
méditer
peuvent.
Avec
le livre. On sait lire à 8 ans, hein, quand même.
Pas beaucoup. Hein.
C'est, ah oui
un livre comme ça, non.
Non, c'est bon. Oh, quand même, c'est écrit gros.
En fait, même s'il y a beaucoup de paroles d'enfants dans le livre,
oui,
c'est-à-dire
oui,
que moi j'ai été émerveillé, j'ai fait pendant un an, j'ai consacré un an de ma vie à faire des ateliers philo avec des enfants, oui. Dans des classes un peu partout, hein, j'ai été dans toute la
dans
francophonie.
Le monde, okay,
toute
la francophonie. On va en parler très en détail, mais d'abord je vous ai préparé une petite interview philo À quoi servent les philosophes ?
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes avec notre invité Frédéric Lenoir, philosopher et méditer avec les enfants. Alors, l'interview philo. Est-ce que les philosophes peuvent avoir de l'humour ?
Ils en ont en général moins que les autres.
C'est un peu dommage. Contre Sponville, par exemple.
Très sympathique.
Et aucune autodérision.
C'est vrai que c'est dommage. Parce que je trouve qu'au contraire, la philosophie devrait nous permettre d'ouvrir l'esprit, de prendre de la distance.
De la distance par rapport à soi.
Et malheureusement, beaucoup de philosophes sont un peu enfermés dans leur concept.
Est-ce que les philosophes sont riches ?
À quel point de vue ?
Financièrement.
Ah, ça dépend complètement qui. Alors, vous avez des philosophes pauvres, vous avez des philosophes moyennement riches, vous avez des philosophes très riches. Ça dépend, en fait, la richesse vient uniquement, soit ils ont hérité, comme Bernard-Henri Lévy. Donc, lui, il est riche parce qu'il est le fils de quelqu'un qui était très riche.
Vous voulez dire, c'est pas parce qu'il vend des livres.
Il a vendu. Dans le passé, oui, il a vendu.
Ça a eu marché, mais ça
marche. Il y a des livres de philo, enfin, les vôtres notamment, qui se vendent très bien.
Alors, voilà. Et puis, les philosophes qui sont riches, j'en fais partie, c'est-à-dire ceux qui vendent des livres qui ont du succès auprès du public.
Enfin, bon, en même temps, vous êtes
mort dans la misère.
Non, il n'y a pas de philosophe qui meurt dans la misère.
Non.
Spinoza est mort dans la misère. Il y a des philosophes qui ont dit, mais il a choisi. Spinoza, on lui a proposé des rentes, on lui a proposé des universités, vous lui donner de l'argent. Il a dit non, je veux vivre humblement avec mon travail manuel. Et vous savez ce qu'il faisait Spinoza ? Il polissait des verres pour la vue, c'est-à-dire il faisait des lentilles. Alors, c'est extraordinaire, ce penseur qui nous a tellement aiguisé l'esprit, en fait, il polissait des verres.
Est-ce que quand on est philosophe, on ne craint pas la mort ?
Ah, je crois que non. Je crois qu'on craint la mort. Simplement, on peut méditer sur la mort pour essayer de l'apprivoiser. Ça ne veut pas dire qu'on ne la craint pas.
Est-ce qu'on peut être philosophe et boire plus que de raison ?
Je n'en connais pas beaucoup.
Par exemple, Épicure,
qui est le grand philosophe du plaisir, nous dit qu'il faut boire modérément. Parce qu'il vaut mieux boire un vin de bonne qualité modérément que de la piquette en abondance.
Ah bah ça, je suis d'accord.
Est-ce qu'on peut être philosophe et insulter l'automobiliste qui vous fait une queue de poisson ?
Oui, mais c'est que vous n'avez pas totalement intégré votre philosophie dans la vie. C'est pas facile.
Est-ce qu'un philosophe est forcément fidèle en amour ?
Pas forcément. Je pense que ça n'a rien à voir. La philosophie nous aide à réfléchir finalement sur la vie. Ça vous rend pas forcément vertueux.
Parce qu'au fond, on se demandait, je sors de mon entre, on se dit, au fond, Frédéric Lenoir, tout le monde l'aime bien. Parce que vous
c'est
dites.
Pas vrai, ça.
Et peut-être que vous êtes un vrai salaud dans la vie.
Peut-être.
Je ne sais pas, je ne vous connais pas assez.
On peut dire, vous avez tout à fait raison de dire ça. Parce qu'on peut tout à fait avoir des très bonnes idées, des choses très positives et ne pas les vivre.
Voilà.
Et je vais vous dire, je ne suis pas en cohérence.
Si on faisait
avec
une
tout.
Enquête de moralité, par exemple, si on allait voir vos voisins.
Mais exactement,
vous êtes peut-être le Jérôme Cahuzac de la philosophie.
Exactement. Bon, après, est-ce qu'on peut mes impôts, par exemple.
Alors, voilà, on peut être philosophe et frauder le fisc, c'est possible.
Est-ce qu'on peut être
philosophe et rater l'éducation de ses enfants ? Non.
Si,
ça peut. Rousseau,
le meilleur exemple. Jean-Jacques Rousseau a écrit un des meilleurs livres qui soit sur l'éducation des enfants, et il a abandonné ses 5 enfants.
Et Carole Rousseau, il n'a pas tellement réussi son éducation non plus.
Est-ce qu'on peut être philosophe et devenir assassin ?
Je sais. Alors oui, parce que vous pouvez. D'ailleurs, il y a un cas célèbre, c'est Althusser qui a tué sa femme.
Bien sûr.
Et donc on peut.
Mais enfin, il était fou.
Et voilà, on peut avoir des déséquilibres psychologiques, émotionnels, tout en ayant une pensée profonde.
Alors dernière question. Ça ne protège de rien.
Je me dis à quoi ça sert. Est-ce qu'un philosophe doit montrer l'exemple ?
Oui. Alors théoriquement, c'est-à-dire que le philosophe, autant qu'il soit en adéquation avec ses pensées, mais encore une fois, c'est pas si facile que ça. Et dans l'histoire de la philosophie, vous avez des philosophes exemplaires comme Socrate, comme Spinoza, comme Montaigne, comme Épicure. Et puis vous en avez d'autres qui étaient en incohérence totale entre la vie et leurs pensées.
Alors, on va revenir maintenant sur philosopher et méditer avec les enfants. C'est publié chez Albin Michel. Petit cours de philo très sympathique du matin. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et à la bonne heure, et bien ce matin, nous parlons de la joie, du bonheur, avec Frédéric Lenoir, philosopher et méditer avec les enfants. Comment est née cette expérience ?
En fait, moi j'avais été très frappé d'une phrase de Montaigne dans les Essais, qu'on connaît tous et qui est merveilleuse, où il dit « Le but de l'éducation, c'est pas de faire des têtes bien pleines, mais des têtes bien faites. » C'est-à-dire qu'il vaut mieux apprendre aux enfants à apprendre à penser. Oui, mais le principal, c'est de leur apprendre à bien penser, leur apprendre à acquérir un discernement, un jugement. Moi, je suis effaré de voir les ados après, comme ils tombent dans les théories du complot, etc. Ils n'ont pas de discernement. Et donc, ça s'apprend tôt, un discernement.
Ils n'ont pas de structure mentale.
De structure mentale qui leur permet de bien penser, c'est-à-dire de bien réfléchir, d'avoir un esprit critique, tout simplement.
Et ça, ça dépend des parents, de l'école.
Non, oui, mais ça dépend d'éducation. Des lectures
aussi.
Ça dépend d'éducation. Oui. Et donc, il faut éveiller à l'esprit critique, éveiller à la pensée personnelle. Et la philosophie est là pour ça. Alors, la philosophie ne vous rend pas forcément heureux, mais la philosophie vous éveille à la lucidité.
Oui,
à
mais la philo, on apprend la philo. Non, pardon, alors, c'est en terminale qu'on fait de la philo.
Ce qu'on fait avec les enfants, c'est pas de l'histoire de la philosophie.
Non, là, vous les interrogez.
On leur pose des questions, on les laisse parler. Il faut distinguer la transmission d'un savoir de l'histoire de la philosophie qu'on ne peut pas faire avant 16-17 ans parce qu'il faut avoir acquis un vocabulaire, un bagage culturel, avec l'acte de philosopher. Et ça, on peut le faire très tôt. Dès qu'on a l'âge de raison, dès 6-7 ans, les enfants et moi...
Mais pourquoi on ne le fait pas là? Vous l'avez fait, c'est une expérience passionnante à vous lire pour un livre, mais ça ne se pratique pas dans les écoles.
Alors, ça existe de manière marginale. Vous avez des gens qui, depuis 30 ans, aux États-Unis, depuis 20 ans en France, font des ateliers philo, mais ça reste très marginal. Et ça reste marginal parce que longtemps l'éducation nationale a été hermétique à cette idée-là, notamment à cause des profs de philo, qui n'aient pas envie que les enfants fassent de la philo. Bon.
Et puis aujourd'hui. Non, ça se pratique seulement quand il y a des cellules psychologiques, quand il y en a un qui se fait. Non, mais c'est vrai.
Alors aujourd'hui, dans les programmes, c'est quand même une information importante, il est inscrit depuis les programmes de 2015 qu'on peut faire des ateliers à visée philosophique dans le cours d'instruction morale et civique. C'est-à-dire qu'il y a une heure de cours par semaine dans toutes les classe où on peut faire des ateliers. Le problème, c'est que les enseignants ne sont pas formés à ça.
Bah non, alors
et donc,
comment on fait?
Ce que je propose, alors c'est pour
c'est
ça...
d'y aller vous-même.
Moi, j'ai été moi-même, sauf que je ne peux pas me démultiplier.
Oui.
J'ai pas
puis là, vous êtes allé au Canada, Molenbeek...
Alors du coup, j'ai créé une fondation qui s'appelle la Fondation Sève, dans laquelle je mets tous les revenus de mes conférences et puis d'autres personnes me rejoignent pour mécéner la fondation, pour qu'on puisse former gratuitement des enseignants aux ateliers philo. Et donc moi j'ai regroupé tous les gens qui font de la philo avec les enfants en France, qui sont dans cette fondation qui s'appelle Sève, ça veut dire savoir être et vivre ensemble, puis c'est la sève de l'arbre, c'est beau pour les enfants. Et cette fondation finance des formations pour les enseignants.
Est-ce que c'est parce qu'autrefois on prenait la morale à l'école?
Oui. C'est les cours d'instruction morale.
Voilà, mais c'est un peu ça modernisé, mais
c'est pas la même chose. Parce que le cours d'instruction morale, c'est le maître qui enseigne. Là, vous posez une question aux enfants.
Vous discutez avec les enfants.
Alors, d'eux-mêmes, ils font jaillir une morale. L'action, faut-il répondre à la violence par la violence?
Oui, de faire ça.
Les enfants se parlent, discutent entre eux, débattent entre eux, et ils arrivent à la conclusion que non, ça sert à rien de répondre à la violence par la violence. Mais le fait que ça vienne d'eux, ça change tout. C'est pas quelque chose qu'ils reçoivent de manière facile.
Et alors, il y a un CD de méditation guidée. Alors pourquoi je parle de la méditation? Parce qu'au fond, vous dites qu'il y a un problème, les enfants n'arrivent plus à se concentrer.
Exactement. Alors moi, je ne pensais pas du tout les faire méditer au départ. J'étais là pour faire des ateliers philo, faire cette expérience. Et puis je m'aperçois que les enfants sont hyper nerveux, agités, et les enseignants me disent on n'arrive plus à les tenir attentifs pendant plus de 10 minutes. Ouais. Et alors comme moi, je pratique une forme de méditation très simple depuis 30 ans, qui s'appelle, on appelle ça la pleine conscience, en fait, moi je préférais parler de pleine attention, c'est un exercice... simplement, on est présent à son corps et on apprend à lâcher le mental, à lâcher les pensées, à arrêter de ruminer tout le temps. Les enfants sont tout le temps en train de penser à quelque chose.
Et alors, il faut faire comment là, par exemple,
c'est très simple.
Alors, on va tous
faire.
Allez, on met les mains sur la table.
En fait, vous posez les mains sur la table. Voilà. Vous tenez bien droit.
Voilà.
Vous essayez d'être axé pour pas vous avachir.
Voilà, axez-vous.
Voilà. Vous fermez les yeux. Et puis, vous essayez d'être attentif sur votre respiration.
Patrice s'est endormi.
C'est-à-dire que, en fait, au lieu de suivre toute votre pensée, vous laissez passer les pensées et vous êtes uniquement présent à votre corps, à votre respiration. Et à ce moment-là...
Alors, si vous conduisez, gardez les mains sur le volant.
Non, vous ne faites pas ça en conduisant.
Non, mais non.
Faites ça chez vous, plutôt dans votre chambre, tranquillement. Et le fait d'être présent à ses sensations, à sa respiration, fait qu'on lâche les pensées de mental et du coup, ça détend. C'est un effet de détente. Et ça a un effet d'attention, on est plus présent. Et les enfants, ils font ça 2-3 minutes, et ben après, ils sont beaucoup plus attentifs.
Voilà.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Toujours avec Frédéric Lenoir, philosopher et méditer avec les enfants, chef de Michel. Alors, elle n'est pas du tout dans cet état d'esprit. À la une, est très en colère. C'est Joël Goron.
Oui, Joël Goron.
Non, attendez, Joël, c'était le jingle.
Elle engueule son jingle.
Voilà. Alors.
Oui, je vous contredis déjà. Parce que le livre de Monsieur Lenoir m'a passionnée. Parce que je trouve que, aujourd'hui, moi j'appelle ça, c'est pas le bon mot, le débat d'idées. Mais dans ma famille, par exemple, on discutait, même quand j'avais 7-8 ans, on discutait de mots très importants.
On s'engueulait.
Le bonheur. Oui, on s'engueulait, mais c'était bien. J'avais le droit à la parole.
Il est où le bonheur?
Moi, je trouve ça très important. Et que dans son livre, il donne des mots-clés comme ça qui vont permettre aux parents même de lancer un sujet à table. C'est quoi le bonheur? C'est quoi d'être heureux? Et ça, je trouve ça... Enfin, bref.
Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé dans certaines familles où on parle chacun sur son smartphone. Oui.
Eh ben voilà, c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste.
Bonheur sur Twitter.
Parce que la gymnastique de l'esprit, ça rend heureux. Voilà. Bon. Après, maintenant, ma colère.
Alors.
Dans votre quartier, je suis sûre que c'est la même chose que chez moi. Il n'y a plus de boucherie chevaline, il n'y a plus de triperie, il n'y a plus de mercerie, il n'y a plus de quincaillerie, il n'y a plus de marchand de couleurs.
Laissez-la parler, s'il vous plaît.
Vous allez me laisser parler. Donc, ça ne vous énerve pas qu'il n'y ait plus tout ça ?
Non,
ils s'en fichent. Eh ben moi, je ne m'en fiche pas. Il y a même un truc qu'on n'a plus dans notre quartier, de moins en moins en tout cas.
Les dinosaures, il n'y a plus de dinosaures. Ce sont
les. Les marchands de presse, les marchands de presse, les kiosques, les journaux, tout ça.
Les kiosques encore.
Voilà. Il y a encore, il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de maisons de la presse. Est-ce que je vais arriver à faire mon papier ?
Oui, allez-y, allez-y.
Parce que quand on parle tous en même temps, on ne comprend pas ce qu'on dit.
C'est vrai ?
Voilà. Bon, alors, je continue. Je sais que les journaux, ça intéresse de moins en moins les gens, puisqu'il y a les journaux gratuits.
Il y a les gens qui allument les réverbères.
On regarde sur Internet, tout ce qu'on veut. Est-ce que je vais faire
Je suis d'accord, allez-y, ne vous laissez pas démonter.
Elle fait ce qu'elle veut.
Et les gens qui démontent les dames, ils sont où?
Le résultat, vous savez combien il y a de boutiques de presse qui ont disparu depuis 2010? 6000 magasins de presse ont disparu.
Je sais, dans le centre-ville, ça disparaît dans tous les bourgs.
Alors, vous savez à quoi ça servait aussi? C'était des endroits où les gens venaient en cherchant leur journal, ils venaient papoter, et on se retrouver un peu, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui très pompeusement, un lieu de vie. Alors maintenant, on a des mots pour dire les trucs, mais on n'a plus des endroits pour le faire.
Les bistrots aussi disparaissent.
Les bistrots aussi disparaissent.
Ouais, mais il y a des salles de shoot.
Oui, et puis il y a surtout des quartiers où il n'y a plus que des halls à vendeurs d'appareils de téléphone, des marchands de lunettes. C'est sûrement pour ceux qui cherchent le lieu de vie.
Hein. Il y a des cafés philo.
Puis il y a des banques. Des banques, c'est en voiture, en voilà, alors que la plupart des gens qui ont du fric, tout ce qu'ils cherchent, c'est à trouver des banques à l'étranger. Bon, voilà. Après.
Et bam.
Et bam. Prends ça dans les gencives.
Ça vous la coupe, ça, monsieur Bern?
Oui.
Voilà. J'ai encore du temps?
Oui, bien sûr.
Bon. On a plus le temps. Les gens qui vendent le temps, ils sont plus là.
Vous savez que sur les sites de rencontres, quand vous voulez rencontrer un homme ou une femme, vous mettez votre photo. Oui. Eh bien, même si vous êtes beau, si vous êtes une créature de rêve, que vous soyez un homme ou une femme, si vous avez un statut dans la vie extrêmement enviable, que vous avez de l'humour, vous êtes tout bon, vous avez tout bon, eh bien, il vous manque quelque chose pour séduire l'adversaire. C'est quoi, à votre avis ? Qu'est-ce qu'il faut mettre sur son site de rencontre pour que ça marche ?
Son revenu ?
Non. Même pas.
Ton âge ?
Même pas.
Son âge ? Ses performances ?
Non, même pas.
Ses goûts musicaux ?
Vous pourriez le faire, mon cher Stéphane.
Je sais pas.
Eh ben, mettre la photo de vos chiens.
Ah bah oui.
Il faut mettre la photo de votre animal.
Bah oui.
Et alors là, vous allez rencontrer... C'est extraordinaire d'ailleurs, parce que ça attire...
Disons qu'au moins, je pourrais marier mes chiens à des fois de...
Alors vous savez que ça attire. Si vous mettez votre photo avec vos chiens, vous allez attirer des fantasmes féminins. Ouais. Alors qu'inversement, chez l'homme avec photographié avec ses chiens, ça marche pas vraiment.
Ah oui ?
Non.
C'est génial, parce que vous rencontrez la personne, je suis déçu, vous ressemblez pas aux chiens. Ouais.
Et si c'est des chats, ça, ou des chats, ça va.
Ah mais animal familier. Mais en revanche, imaginez, ne mettez pas la photo de vos enfants surtout. Ah ça, bah ça marche pas du tout.
Ah pas du tout. D'accord.
Bah, si ça attire les pédophiles, mais...
Oh.
C'est pas moi qui l'ai dit.
Oui, c'est Régis.
Vous auriez changé de voix, la méchante.
Bon.
Mais merci Joël.
Bah, je vous en
prie. On a fait le tour de ce qui se passe dans votre quartier.
Vu comment vous me laissez parler.
Bah oui. En tout cas, c'est vrai. Défendons les centres de presse, les centres de...
Mais pas les boucheries chevaliers.
Les boucheries chevaliers,
ça, je suis pas pour.
Mais non,
pourtant,
elle
mange du cheval, elle.
Ah, j'aime bien, moi.
Eh bien, merci, Joël. On va revenir à Frédéric Lenoir, philosopher et méditer avec les enfants, parce que les enfants sont présents dans votre livre. Hein. Évidemment, il y a des propos d'enfants sur lesquels on va revenir dans un instant. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
L'interview, c'est vrai que...
Alors, Frédéric Lenoir, pendant que Joël bavarde. Alors, c'est vrai que vous avez à la fois le sentiment de vous améliorer avec le temps, mais ça ne vous empêche pas de recommettre les mêmes erreurs que dans le passé.
Parfois, pas surtout.
Quel genre d'erreur ?
J'en sais rien, je ne sais pas. Il y a certainement, oui, mais il y a certainement des choses dans lesquelles on se dit, bah tiens, j'ai fait telle connerie, puis on la refait. Bah si, il y a des exemples, il m'est arrivé de trop boire, et puis ça, je sais que je ne suis pas
vous
bien après,
que c'est
mais
pas bien.
Ça m'arrive encore. Voilà, on peut trouver plein d'exemples.
Patrice,
c'est votre père qui était ministre de Giscard, d'ailleurs. Il était
secrétaire d'État à l'Action sociale.
Ouais. Qui vous a donné le goût de la philo.
Absolument. Il avait une passion pour la philo. Et j'aime beaucoup ce que disait Joël tout à l'heure. On parlait énormément à table. C'est-à-dire qu'il y avait plein de discussions, de tout. Et on critiquait l'autorité des parents. On disait, mais pourquoi si? Il fallait nous expliquer tout. Et du coup, j'ai eu le goût de la philosophie dès la petite enfance, finalement.
Alors, vous méditez tous les matins 15 minutes. Oui. Mais moi, je voudrais bien savoir, quand vous êtes par exemple dans un taxi et qu'il y a RTL, vous arrivez à méditer? Vous faites comment?
Pas quand c'est vous, Joël.
dans un taxi, je fais mes textos et mes mails, et ça, c'est pas le lieu où je médite, effectivement.
Donc c'est toujours
mais
chez vous.
Vous savez, on peut méditer partout. Ouais. On peut méditer qu'on marche dans la rue, on peut méditer qu'on est dans la nature, on peut méditer qu'on fait la cuisine. C'est simplement d'être attentif, d'être présent à ce qu'on fait. La méditation, c'est vraiment un exercice de l'attention. Donc faut pas être trop dérangé par les bruits extérieurs, c'est tout.
C'est vrai que vous possédez une petite cabane de pêcheur, très modeste, ma foi, mais en Corse tout de même, qui s'appelle chez Francis.
Mais elle a explosé il n'y a pas longtemps. Ah, non, c'est vrai, mais je suis dans le Cap Corse, je ne suis pas dans le Corse du Sud.
Merveilleux endroit.
Un endroit sauvage.
Eric, voilà.
C'est vrai que lorsque vous arrivez à l'hôtel, la première chose que vous faites, c'est de débrancher la télévision.
Alors, absolument, parce que je ne peux pas dormir s'il y a la petite lumière rouge. D'abord, je ne regarde pas la télé.
Ça veut dire que c'est en veille.
Oui, mais ça m'empêche de dormir. Je suis très sensible à la lumière. Et je commence par débrancher la télé, d'abord parce que je ne la regarde pas, et ensuite parce que ça m'empêche de dormir.
Et après, le minibar, et donc il y a une inondation dans toute la chambre d'hôtel.
J'avais une question. Ces enfants, là, parce qu'en bandeau, il y a maman. Quand je pense que j'ai attendu d'avoir 7 ans pour faire de la philosophie, dit Julien.
Ça, c'est merveilleux.
C'est des propos d'enfants incroyables.
Alors, si vous voulez, ce Julien, je vais vous en dire un mot. J'ai fait un atelier. En Corse, dans le village où je suis, dans un petit village de 300 personnes, il y a une petite école et j'ai fait un atelier avec des enfants de 7-8 ans. Et puis je pose la question, j'en ai fait sur plein de thèmes, et notamment la question du bonheur. Et il y a un enfant qui dit, le bonheur, c'est de réaliser ses désirs. Et donc on est heureux parce qu'on satisfait ses désirs. Et Julien dit, je suis pas d'accord avec toi. Parce que moi, je vois, quand j'ai un jouet, j'en veux toujours un autre. Donc si on met le bonheur dans la réalisation de ses désirs, on sera toujours insatisfait. Il convainc tous les autres. Ils disent, oui, c'est vrai, ça suffit pas. Alors je dis à Julien, mais c'est quoi le bonheur pour toi? Alors il réfléchit, puis il me dit, je crois que c'est juste de vivre, d'exister au monde. C'est une parole d'un grand philosophe. Et après, le soir, il rentre chez lui et dit à sa maman, « Maman, quand je pense que j'ai attendu d'avoir 7 ans et demi pour faire de la philosophie. » Et il y a des enfants qui sont émerveillés par ça, parce que c'est des enfants qui subissent, si vous voulez, l'enseignement scolaire, qui en ont marre d'apprendre un tas de choses. Et ils ont envie de participer, ils ont envie d'être acteurs.
De la vie, là,
voilà.
Au moins,
et là, ils posent des questions essentielles.
Pourquoi vous voulez envoyer votre livre à Najat Vallaud-Belkacem?
Alors, je l'ai rencontré au mois de juin, on a déjeuné ensemble, je lui ai offert, je vais pas offert le livre, il n'était pas là, mais je lui ai parlé de tout ça. Et elle m'a dit, mais je suis entièrement d'accord avec ça, et on va vous faciliter l'accès à l'éducation nationale pour que vous puissiez former les enseignants. Donc, la fondation dont je parlais est en cours d'agrément, et elle m'a dit qu'elle était extrêmement favorable à ce que la philosophie se développe dans l'école. Et j'avais aussi un inspecteur général de philosophie que vous connaissez peut-être, Abdennour Bidar, qui est un philosophe aussi, et qui m'a dit, mais on va tout faire pour développer la philo à l'école primaire. Donc c'est en train de bouger.
Mais vous les laissez parler, les enfants, ou vous les guidez?
Parce que les laisse parler, et de temps en temps on réoriente. C'est-à-dire, quand ils parlent pendant 2 heures,
pendant rien dire,
des fois ils partent dans des détails, des anecdotes, il faut recentrer le débat.
Et puis ils mentent.
Mais on ne dit pas ce qu'on pense.
Vous dites pas, par exemple, quand il vous dit c'est de réaliser ses désirs, vous ne dites pas, ça pourrait être autre chose. C'est pas
j'attends que ce soit les enfants qui le disent. Et si aucun enfant le dit, je peux dire, est-ce que vous croyez que c'est possible? Et du coup, je relance le débat. On est là pour animer, mais pas pour dire ce qu'on pense.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Frédéric Lenoir pour son nouveau livre « Philosopher et méditer avec les enfants » chez Albin Michel. Alors justement, on a voulu vous mettre en relation, téléphoniquement en tout cas, avec un autre professeur. Il s'appelle Pascal Biouet. Il est professeur de physique au collège Sainte-Marie à Saint-Brieuc. C'est lui aussi qui donne des cours de philosophie à sa manière, par le biais de la télé-réalité. On va essayer de comprendre. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors, en général, et on les comprend, les enseignants sont vent debout contre la télé-réalité. Eh bien vous, au contraire, vous vous en servez dans votre enseignement. C'est-à-dire, de quelle manière et comment vous est venue l'idée ?
L'idée, c'est peut-être je suis plutôt à l'aise dans les montages vidéo. Les élèves passent énormément de temps à consulter aussi des vidéos.
Ils regardent des vidéos, c'est ça ? On vous entend mal, là.
Alors, je me suis dit, on va créer une animation autour de la télé-réalité qui permettra aussi aux élèves à la fois d'être acteurs de ces vidéos.
Ici la Terre. Ici la Terre.
Vous avez un portable, là ?
Oui. Oui, j'ai un portable. Bah,
tout le monde a un portable. Non, mais venez peut-être
le déplacer un petit peu.
Levez
que
le bras droit, s'il vous plaît. Faites 2-3 km.
Parce que là, on vous entend assez mal, en fait.
D'accord, je vous comprends très bien.
Oui, mais nous, non. Mais nous, c'est le problème.
Vous êtes tout seul, nous, on est des millions.
Oui, alors, bon. Donc, en pratique, comment ça se passe?
Alors, les élèves vont subir des épreuves sérieuses en lien avec les programmes de maths, de physique, de sciences, de tout ce qu'on veut.
Oui.
Et ensuite, on va les filmer. Et moi, je vais les interviewer. Il va y avoir des nominations. Il va y avoir tout un contest qui va faire que les élèves vont ensuite être dans des émissions de télé-réalité.
Vous allez les filmer vous-même.
Oui, je vais les filmer moi-même. Maintenant, c'est très facile avec un portable ou une tablette.
Oui.
Ça va leur permettre de comprendre aussi, de prendre un petit peu de distance avec les émissions qu'ils regardent.
Oui.
Parce que là, c'est eux les acteurs. Et puis, je vais aussi, moi, faire des émissions de type télé-réalité. Ça va durer.
Mais ils sont d'un meilleur niveau que ce qu'on voit dans les émissions de télé-réalité.
Ça peut pas être pire, hein, Stéphane.
Je ne sais pas. Je vous enverrai les premières émissions.
D'accord.
Non, l'idée, c'est vraiment de qu'ils soient acteurs, mais qu'effectivement, on prenne un peu de distance par rapport aux émissions qu'ils regardent.
D'accord.
Parce que finalement, ils ont quand même travaillé sur du fond.
Joël a une question.
Le monsieur est professeur de quoi ?
De physique.
Hein. Et quel est le rapport ?
Eh bien, on les interroge.
Eh bien, cette année, ils partent sur ce qu'on appelle une mission Proxima. Et ils sont 60 candidats et les trois meilleurs garçons, les trois meilleures filles seront désignés pour aller sur une mission fictive sur l'étoile Proxima.
Ah mais ça ne marchera jamais, ça ne fera pas d'audience, ça c'est trop intelligent, hein, je vous le dis tout de suite.
Donc ils vont construire un robot en technologie qu'ils vont devoir piloter et programmer, ils vont parler en anglais, filmer, etc. etc.
Ah oui, donc en fait c'est un enseignement multi-multi...
Multidisciplinaire. J'ai l'impression que le robot est parti.
C'est un robot. Votre hiérarchie et les parents d'élèves ont été contents de votre initiative ou ils ont protesté?
Oui, parce que dans l'équipe, on peut faire un petit peu d'expérimentation, donc ça se passe très très bien. Et les parents sont ravis de voir les émissions, les spectacles de fin d'année.
Ah oui,
on va changer de
forme. Quels sont les résultats du bac?
C'est un collège, donc.
Oui. C'est un prof de physique qui fait des expériences, il est dans un bocal actuellement.
Il faudra vous envoyer les vidéos.
Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser, évidemment, je rappelle, donc vous utilisez ce qui nous entoure, ce qui fait la vie quotidienne des enfants pour les confronter eux-mêmes à leur propre réalité.
Voilà, l'idée, c'est d'aller sur leur terrain, et donc forcément, ils vont être plus attentifs, plus persévérants.
Ils vous entendent mieux que nous.
Merci en tout cas, Pascal Biouet, d'avoir répondu à nos questions. Merci, bonne journée à vous, à Saint-Brieuc.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir, Frédéric Lenoir. Il y a des questions qu'on peut poser aux enfants et que vous l'avez fait, vous leur avez demandé alors la mort, qu'est-ce que c'est pour vous?
Vous savez, les enfants, contrairement aux adultes, ils aiment parler de la mort. C'est un sujet tabou pour les adultes, pas du tout pour les enfants.
Ouais, c'est loin.
Et c'est loin, voilà, ils sont peut-être pas encore concernés. Et je leur ai posé la question de manière philosophique, c'est-à-dire, par exemple, question, vaut-il mieux être mortel ou immortel? Et là, je m'attendais à ce que l'énorme majorité des enfants me disent, vaut mieux être immortel. Pas du tout. Ils m'ont tous dit, vaut mieux être mortel. Et les raisons sont formidables. Ils vous disent, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait sur Terre si on était immortel? Il faut mieux avoir un temps limité où on vit intensément. D'autres vous disent, le monde ne changerait pas, il y aurait toujours les mêmes personnes.
Puis leurs parents seraient toujours là.
Mes parents qui se disputent continueraient de se disputer éternellement. Et puis ils vous disent, Napoléon serait toujours en train de faire la guerre en Europe. Donc on entend des choses, il y a vraiment des intuitions profondes.
Parce que pour moi,
j'ai vraiment changé sur cette question-là, j'ai appris des choses. Je me suis dit, ils ont des arguments auxquels je n'avais pas pensé.
Les arguments d'un naïf.
Mais en tout cas, c'est un trait.
De l'innocence.
Non, c'est formidable. C'est un très bon livre à mettre entre toutes les mains. Philosophie et méditer avec les enfants. On va retrouver un autre enfant, c'est Eric Dussard, dans un court instant.
Et de la philo aussi.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Eric, on commence avec Secret Story.
Eh oui, je crois que j'ai deviné le secret d'une candidate. À mon avis, son secret, c'est « Je suis la fille de Patrice Carmouze ». Je suis sûr que c'est ça, parce qu'il y a un indice qui ne trompe pas.
Sa voix.
Quand elle parle, on dirait papa, on ne comprend rien.
Alors pourquoi vous êtes où, Malayla ?
Parce qu'il s'agit de notre Julien, qu'il a eu besoin d'un GPS, de passer à Homo, à Puceau, jusqu'à arriver sa vraie identité. Il a fait sur notre comédienne Mel, qui est magnifique. Elle voulait avoir quelques accents dans le jeu de la voix, action-vérité, dans la soirée action-vérité de la voix.
D'accord. Soit il y en a parlé français ou langue d'un pays autre différent. Patrice,
je t'avais dit de ne pas la faire, cette émission.
Vous avez compris ce qu'elle voulait dire, votre fille, ou pas?
C'était pas bien clair, cette histoire.
Oui, elle avait quelque chose dans la voix, non?
Oui, la voix, c'est un peu le principe de cette émission. Pour le reste, ça reste assez mystérieux. Allez, on va passer de la maison de Secret Story aux maisons d'hôtes de TF1 avec ce concours nommé Bienvenue chez nous. Et effectivement, les hôtes sont vraiment les bienvenus dans cette émission. L'ambiance est excellente, surtout au moment de faire le bilan de leur semaine de vacances.
À nous maintenant, vous nous avez reproché la salle de bain.
Ben oui.
Mais chez vous, la salle de bain est aussi petite.
Moi, c'est une douche qui est faïencée, la tienne, et c'est une boîte en plastique. Ben moi, toutes les prestations, j'ai ma piscine, j'ai tout le reste.
Le jour où on est venu, on n'a pas pu l'utiliser, elle était trop froide.
Ben t'es à 26. T'as que gelé, c'est tout, je peux pas te dire plus. Excuse-moi.
Je suis désolée.
Par contre, aussi le côté mesquin de vos lampes torches. Là, j'applaudis. Mets-toi là dans l'oreille, tu verras où est-ce qu'elle est l'araignée. Dans ton plafond, d'accord? Arrive avec une lampe torche. Je trouve que c'est médiocre, autant que ton sourire est médiocre.
On a une invasion de fourmis.
Une invasion de conneries, non, des fois, non?
Tu seras bienvenue chez moi.
Voilà, c'est cette chanson qu'ils auraient dû choisir pour le générique de cette belle émission, c'est tellement convivial. Et alors, ils passent tout au napalm, hein, les candidats de ce concours, les chambres, mais aussi les repas. Par exemple, ce candidat n'a pas eu l'air satisfait d'un plat qui, pour lui, ne cassait pas trois pattes à un canard. Enfin, presque.
Le confit de canard, c'est la chose banale et facile. J'aurais pu manger ça chez moi, donc je sais pas vraiment ce qu'est la région à travers le repas.
Bon, c'est pas ça qui va tuer une pâte à un canard.
Ah bah si, ça lui a même tué les deux pattes a priori, hein, s'ils sont en train de manger un confit. Ou alors ils font un confit de canard vivant, pauvre bête. C'est pas mal comme nouvelle expression, tuer une pâte à un canard. Ça change. Alors en parlant de bête, mais au sens figuré cette fois, vous savez que dimanche il y avait une nouvelle édition de la Manif pour tous à Paris. Enfin pour tous, pour personne, hein, puisqu'ils étaient entre 3 et 4 à peu près. Mais attention, ils avaient les meilleurs, comme cette jeune fille interviewée hier soir dans le petit journal de Canal+, qui avait des arguments très très affûtés, hein, contre le mariage homosexuel. Elle, c'est sûr, c'est le cerveau de ce mouvement.
Vous voulez abroger la loi Taubira ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que elle... parce que elle... c'est une... enfin, comment dire ? C'est une contrainte pour les familles. Enfin, elle ne... elle ne permet pas... enfin, un véritable mariage, enfin, ouais. Je sais pas trop comment dire.
Ok, bah si tu sais pas trop comment dire, tu sais quoi ? Tu dis rien, hein ? Ce sera plus simple.
Mais il y a Madame de Fontenay qui est avec
eux. Oui.
C'est un contrat pour les familles, parce qu'on oblige les gens à faire un mariage gay.
Frédéric Lenoir a quand un livre, hein, pour aider les enfants issus de la manif pour tous.
On a été interviewé.
Ils vont avoir besoin d'aide, hein, dans la vie aussi. Hein.
Alors, philosopher et méditer avec les enfants, c'est le titre du livre de notre invité Frédéric Lenoir.
Oui, c'est aussi exactement ce que faisait Philippe Risoli quand il présentait l'école des fans sur la chaîne Gulli. Il philosophait avec des enfants, toujours très très inspirés. Alors surtout, évidemment, quand il s'agissait de parler de leurs parents.
Qu'est-ce qu'elle fait avec les cartes, ta maman ?
Elle fait la voyance.
Elle fait la voyance ? Et elle voit des bonnes choses, généralement, dans les cartes ?
Quand je l'entends, j'ai l'impression qu'elle dit tout le temps la même chose.
Elle est sympa, ta maîtresse, aussi ?
Oui.
T'aimerais lui ressembler, un jour, à Madame Huss ?
Non.
Je peux savoir pourquoi ?
Parce qu'elle est pas belle.
Les enfants sont formidables. Bonjour Madame Huss, avec un nom pareil en plus, ça pourrait être facile tous les jours. Son prénom c'est Anne, alors je le raconte pas. Bon bref, en parlant de méditation, j'en connais un autre, hein, qui la pratique tous les jours. Il n'a pas trop le choix, c'est William Lémergie. Ça vaut mieux qu'il adopte, hein, une forme de zénitude avec tous les problèmes techniques qui lui tombent dessus dès 6h30 du mat dans Télématin sur France 2. S'il n'avait pas appris à respirer profondément, ça fait longtemps qu'il aurait dézingué tout le monde en régie.
Merci beaucoup. La suite, dans quelques instants, vous restez, s'il vous plaît, parce que vraiment, on a des choses à vous dire. Et en plus, on a les images qui vont avec. Formidable, non ?
Ça, c'est ce que tu penses, mais...
Ah bon ? Vous voulez qu'on reste ensemble ? C'est comme vous voulez. Ils sont tous partis ou quoi ? Ils ont fermé la porte. Hein ? Non, restez là. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ?
On devrait voir l'image.
Alors, la machine vient de tomber en panne.
Ah, super.
Nous sommes désolés.
Ouais, faut pas stresser, ça va vite être réparé, hein. C'est France Télévisions, en juin sera bon, hein. Non, vous inquiétez pas, ça va vite revenir.
Vous êtes mauvaise langue, Eric Dussard.
Oui, je suis payé pour.
Et on termine avec L'amour est dans le pré, hier soir sur M6.
Oui, et apparemment, ça avance bien, hein, les discussions, les négociations entre les célibataires. Visiblement, certains sont vraiment sur le point de conclure.
Ça, c'est ton lit.
Ah ben voilà, ta chatte.
Voilà ma chatte. Tu vois, elle est grise, soyeuse, agréable. Elle t'aime bien, on dirait. Elle a rien connu. Elle a même pas connu la bistouque.
Oui, c'est une pucelle.
Oui, c'est une pucelle.
Oui, c'est une chatte
pucelle. Une petite pucelle, la pauvre.
Une
Une fois les présentations du minou de Laetitia faites...
Ben voyons, et après ils vont essayer de nous faire croire qu'ils ne font pas exprès, ouais, hein, de faire des jeux de mots et des sous-entendus. Bon, ça profite à l'émission, hein, 4 600 000 téléspectateurs hier soir.
Et ça cette, vous
cette
aussi.
Belle histoire de minou.
Donc si on dit chat, ça fait 4 600 000.
Ouais, allez-y, encore 2-3 fois avant ouais. midi.
On est en train d'augmenter. Le...
Ah, là, là, là.
Ça fait votre miel aussi.
Ah bah oui, bien sûr.
Oui. Très bien. Ah, merci beaucoup Eric Dussard. Est-ce qu'au fond, quand vous discutez avec les enfants, ils sont très marqués par la télévision?
Ils sont marqués par la télévision, mais pas que la télévision. Ils sont marqués aussi par le cinéma, les jeux vidéo, etc. Donc tout leur environnement, effectivement, culturel. C'est pour ça qu'on peut commencer un atelier philo par un film, par exemple, un dessin animé. Mm-hmm. Ils ont tous vu Kirikou, des dessins animés comme ça, et on peut poser une question. Bah, pourquoi la sorcière, elle est méchante dans Kirikou? Et là, on part de ça, parce que c'est quelque chose, finalement, qui est immédiat pour eux, qui connaissent. On peut partir de la littérature jeunesse aussi.
L'actualité.
Je parle pas tellement. Si, alors ils en parlent eux-mêmes.
Oui, ouais.
Par exemple, j'ai fait un atelier
quand
récemment.
Vous dites, est-ce qu'il faut répondre à la violence par la violence?
Non, mais je vais vous donner un autre exemple. J'ai fait un atelier, qu'est-ce qu'une vie réussie? Et plusieurs enfants disent, une vie réussie, c'est de faire ce qu'on aime. C'est avoir pu faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, etc. Et d'être heureux. Et puis un enfant qui dit, je suis pas d'accord. Les terroristes, ils ont été heureux en tuant des gens, c'est pas une vie réussie. Donc il a dit, une vie réussie, c'est être heureux et pas faire de mal aux autres. C'est merveilleux. Mais il parle très souvent du terrorisme.
C'est spontanément. Ils sont beaucoup plus intelligents que nous, hein.
En ce moment, oui, beaucoup.
Ouais. Ouais, bah oui, dans tous les ateliers, presque toujours un enfant, on parle des émotions.
Oui, ouais, quel moment du ça dérape.
Dans un Molenbeek,
à 7-8 ans, ils ont plein d'intelligence, et puis alors, dès qu'ils arrivent en âge de faire des émissions
ils
de
télé-réalité, sur énergie 12.
Et à 20 ans, bon, ça...
C'est l'adolescence.
C'est l'adolescence.
Le problème, c'est l'adolescence. C'est pour ça qu'il faut les rendre intelligents avant l'adolescence. Oui.
C'est pour ça que c'est important avec votre chef.
Je disais que j'ai fait des ateliers à Molenbeek 8 jours après les attentats.
Oui.
Et les enfants étaient tous traumatisés. J'avais des enfants 90% musulmans. Ils m'ont tous dit on était en colère contre des terroristes. C'est dégueulasse de tuer des gens qui sont innocents. On a eu peur pour notre frère, notre mère qui était dans le métro, etc. Et tout. J'étais très ému par cet atelier.
En tout cas, philosopher et méditer avec les enfants. On vous retrouve dans un instant, Frédéric Lenoir. On va retrouver toute la joyeuse équipe et Elise et Moon aussi, qui sera avec nous dans un instant. RTL, il est midi.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Toujours avec Frédéric Lenoir, philosopher et méditer avec les enfants. Et il y a un CD de méditation guidée, parce que c'est bien de se laisser, de retrouver sa concentration. Mais d'abord, là, vous allez voir, c'est la période de la Toussaint qui approche à grands pas. Eh bien, Elise et Moon a fait un nouveau canular téléphonique. On le retrouve.
Oui, j'écoute.
Oui, bonjour. Marbrerie Groslot.
Oui, bonjour, monsieur.
C'est monsieur Santini, l'appareil.
Qui c'est, monsieur Santini?
Alors, monsieur Santini, je vous explique. J'ai fait une blague à mes amis.
Oui.
Avec ma femme, là, on a fait croire que j'étais décédé.
Ah, alors, ça me fait rire, ça. J'avais fait pareil avec un serpent, moi.
Alors, moi, j'ai fait la même chose, alors, à mes amis. Alors, ils sont tous complètement catastrophés. C'est des amis de 30 ans. Ah bah, écoutez, ma femme leur a téléphoné en leur disant Jacques est mort. il est.
Quelle histoire! Vous avez fait croire que vous étiez mort?
Et tout à fait. Alors, ils sont tous par terre. Et là, figurez-vous que demain soir, c'est pour ça que je vous appelle, ils font un repas en mon honneur. Alors, et moi, ce que je voudrais.
Écoute, c'est un de mes clients qui a fait croire à tout le monde qu'il était mort. Oui? Et alors, sa femme a téléphoné à ses amis pour dire Jacques est mort.
Ce qu'on voudrait faire, moi, c'est vous louer ou vous acheter, hein, évidemment, un cercueil que je sorte du cercueil.
Un cercueil pour vous mettre dans le cercueil.
Dans le cercueil, on pose le cercueil sur la table, je sors, et puis voilà, tout le monde rigole.
Vous, en fait, vous êtes mort de quoi?
Alors, je suis mort, j'ai été écrasé par un scooter.
Dites-moi, si vous aviez été écrasé par un rouleau compresseur, on vous aurait glissé sous la porte.
Ah, mais oui.
On aurait dit, il est où? Ah bah, on l'a passé sous la porte chez le médecin.
Excellent.
Avec le rouleau compresseur.
Excellent. Ah, j'aurais dû vous appeler.
Quand on fait un truc comme ça, il faut absolument s'organiser bien longtemps
à l'avance. Mais oui, alors je suis
parce que moi, quand j'ai fait mon faire-part, j'étais morte.
Oui.
Je peux vous dire que j'ai fait une organisation totale.
Ah, bah alors je suis un amateur à côté de vous, madame.
Ah, mais je suis dans la profession. Moi, j'avais une cliente qui s'était mise à l'intérieur du cercueil.
Oui.
Et un truc est tombé dessus. Et du coup, on ne pouvait plus ouvrir le cercueil.
Oh, c'est excellent.
Et quant à nous, on ne pouvait pas ouvrir le cercueil parce qu'on riait trop.
Oh là là, bah alors là, madame, alors mais dis donc, je suis bien tombée. Bah, oui, oui, bah. Non, mais vous savez, en ce moment, l'humeur est tellement grise et tellement noire qu'il faut il faut déconner, évidemment. Bah, il faut des gens qui ont de l'humour parce que sinon.
Oui, oui, il y a
Bruno. Oh, mais je vous dis, mais j'ai. En plus, bon, bah, je pense que je vais faire appel à un médecin parce que j'ai un ami qui est cardiaque dans la bande, là. Alors, il va y passer, là, quand il va me voir, ouvrir le cercueil.
Ah, ben oui, faut faire attention. Et alors, c'est votre femme qui a annoncé votre décès ?
C'est ma femme qui a annoncé mon décès à tous mes collègues de travail. Alors, ils étaient par terre, tous, parce qu'on s'entend tous très bien. On se voit, je vous dis, on se voit tous les vendredis soirs. Donc là, ça, va leur faire bizarre.
D'habitude, c'est le dîner de con le vendredi soir, vous savez.
Voilà, c'est le dîner de mort, là. Alors là, c'est drôle.
Ouais.
Mon copain Félix, là, je vous dis, il a eu deux pontages, là. Il va sûrement avoir une crise cardiaque. En même temps, il pourra s'en servir du cercueil.
Oui.
Et merci encore.
Il faut me raconter l'histoire.
Oh, je vous raconte, je vous rappelle demain. Alors là, je vous fais un gros bisou. D'accord. Écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances.
Oui, oui, oui.
Ça a l'air de bien la faire rire.
Elle est drôle. Elle est pas envie.
Les tournées sont la bonne cliente.
Elle a des pompes funèbres.
Plus perverse que lui.
Vous écoutez RTL.
Moi, président de la République.
Si j'étais président.
Moi, président de la République.
Moi, président de la République. Alors.
Ouais, j'en ai pas du tout envie. Hein. C'est vrai. Vraiment, c'est un job sacrément difficile et j'aurais absolument pas l'ambition, les talents pour ça.
Enfin, vous écrivez des livres aussi.
J'écris des livres parce que j'ai envie de transmettre des choses effectivement qui me paraissent importantes, mais c'est plutôt dans le domaine des idées, dans le domaine de l'art de vivre. Après, un homme politique, c'est une autre planète.
Vous n'auriez pas un chant, un hymne, une musique qui représenterait votre présidence ?
Ben, moi, je suis plutôt l'hymne de mes idées, je dirais plutôt.
C'est quoi, hein.
Ce serait plutôt Imagine de John Lennon.
Ah voilà, oui, ça fait souvent.
Deuxième jour de suite.
Deuxième jour.
Ouais, qu'il n'y ait pas de pays, qu'il n'y ait pas de raison de tuer, qu'il n'y ait pas de raison de se diviser. Alors, c'est une utopie merveilleuse.
Vous vivez chez les bisounours.
Oui, mais j'assume.
Vous avez écouté l'émission avec Vincent Niclot hier.
Non. Mais effectivement, ou alors la chanson pour l'Auvergnat de Brassens.
Ah oui, l'Auvergnat.
Parce que c'est aussi un hymne à la fraternité.
Cette chanson, toi,
c'est tendre la main.
Qui exactement. Façon, m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid.
Georges Brassens, j'ai reconnu. Ah, c'est pas le blind test encore.
Non, c'est plus tard le blind test. Mais donc, au fond, vous servez à quoi ? C'est-à-dire à éveiller les consciences et les esprits, à essayer de nous.
Essayer de construire des ponts plutôt que des murs. Et on est dans un monde actuel où tout le monde reste des murs. Chacun s'enferme dans sa communauté, dans ses croyances, etc. Et on en crève. Donc j'essaye de montrer tout ce qui peut nous relier au-delà de nos différences culturelles, religieuses, etc. Et puis d'éveiller à l'intelligence critique, au discernement. Et je crois qu'on a besoin aussi d'une pensée positive. Parce qu'on est très démoralisé. Les gens ont perdu un peu la confiance. Et du coup, on voit que les problèmes. Alors qu'il y a plein de choses formidables, il y a plein de solutions. Donc j'essaye d'apporter plutôt une vision constructive et positive que d'alimenter,
de ressasser
tous les problèmes qu'on connaît. Il y a du chômage, il y a du terrorisme, il y a tout ça. Mais ne nous focalisons pas que sur ce qui va mal. Sinon, on crée une dépression collective. Et la France, elle est dans une dépression collective.
C'est ce qu'on est, actuellement. Il faut en sortir.
Alors, je fais tout pour. Voilà, je suis là pour ça.
Vous êtes un médecin des âmes, au fond.
J'essaye.
Eh bien, on va continuer à explorer avec vous, philosopher et méditer avec les enfants. Et là, ça, par contre, il va falloir, vous êtes joueur quand même.
Philosopher avec les chanteurs, maintenant.
Un peu beaucoup, même.
Eh bien, il va falloir jouer, chanter et jouer avec Patrice Carmousse en test à l'aveugle. Mais il y a un week-end romantique en jeu.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmousse.
Et voilà, c'est le moment tant attendu. Les auditeurs qui aiment la chanson, la musique, et oui, c'est le test à l'aveugle de Patrice Carmousse. Là, on vous emmène avec RTL en week-end romantique au château de Montvillargennes, au cœur de la forêt de Chantilly, un hôtel luxe 4 étoiles au milieu d'un parc de 6 hectares. Voilà. Alors, pour gagner, il faut appartenir, faut avoir choisi la bonne équipe. Soit Reste du Monde, c'est-à-dire Eric, Régis et Joël, soit SB, Frédéric Lenoir et moi. Nous allons jouer pour des chansons qui parlent de philosophie.
Alors, il faut reconnaître le chanteur, mais on a le point si, en plus, on donne le philosophe à qui ça fait référence.
Est-ce qu'on peut convenir un point pour le chanteur, deux points pour le philosophe?
Voilà.
Oui, allez.
Vous êtes d'accord?
Vous êtes tous d'accord?
Non, on n'est pas d'accord.
Allez, c'est un point pour le chanteur et deux points pour le philosophe.
Regardez-moi dans les yeux.
On commence par un duel.
Underbra.
Alors Joël, faites attention, c'est Frédéric contre vous. Alors d'abord, reconnaissez le chanteur.
Florent Pagny.
Non, c'est pas à vous de répondre.
Ah mince,
Florent Pagny.
Florent Pagny.
Oui.
Non, ça m'est venu comme ça, je sais pas d'où.
Florent Pagny, ma liberté de penser.
Non, je connaissais pas.
Ma liberté de penser, c'est quel philosophe?
Sartre, il y en a
plein. Sartre, ça pourrait être Voltaire.
Ça pourrait être les Lumières, oui, tous les
Kant.
Ouais.
J'ai dit Voltaire.
Kant. Oui. Kant, c'était pas mal parce qu'il a écrit. Liberté de penser ne peut pas nous être retirée.
Voilà. Donc
c'est fait. Ah, mais il faut dire la phrase complète à ce moment-là.
Je pense que ça va être un beau bordel aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais.
La liberté de parler ou d'écrire peut nous être retirée, pas celle de penser.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est la phrase. Donc c'est Kant.
On va dire 0 point.
Ben non.
Dites des phrases complètes.
Il y a un point pour.
Non, pour quoi faire?
Si, parce qu'il a dit.
Ben j'ai trouvé Florent Pagny tout seul.
Non, c'est Stéphane Verne.
Alors Stéphane contre Régis.
Ne regardez pas. Oh là là. Ne regardez pas.
Ma jeunesse, j'ai voulu dire.
Gabin.
Gabin, oui, je sais.
Je sais que je ne sais rien. C'est
Descartes.
Non, Pascal. Je sais que je ne sais rien.
Ah, enfin. Bah,
Socrate.
Socrate.
Yes.
Oui.
Non, c'est moi.
On l'a dit ensemble.
Deux points pour nous.
Maître Sam. Oui, mais on est censé être ensemble.
Oh, on n'est pas ensemble.
Non, mais
Maître Sam,
deux points pour l'équipe de Stéphane.
Attendez. Face. Attention.
Donc, c'est deux points pour l'équipe de Stéphane. Non. Ça fait donc 3-0 pour l'équipe
SD. Non, et deux points. Non, il a marqué Socrate.
Mais non.
On l'a dit ensemble, c'est pas grave.
Ah, c'est le bordel.
En fait, c'était Stéphane
Régis quand même qui avait dit ça.
C'était Stéphane qui avait parlé.
On se plie au jugement de Maître Sam. Attention, Eric contre...
Moi, j'y vais.
Contre Frédéric.
Avec le Vésu. Oui. On l'a vraiment...
Et quel philosophe,
ah,
alors.
DSK. C'est quoi la...
La queue le la fête, la queue le
Épicure.
Et ça pourrait être Épicure, oui. Ça pourrait être Nietzsche, aussi.
Ah,
parce que c'est un peu dionysiaque.
Je vous dérange dans votre discussion, j'ai donné toutes les réponses. J'ai les deux points.
Oui. Deux points, donc ça fait donc
3-2.
Stéphane.
Mettez votre casque.
Stéphane contre Joël. Adieu, Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi.
Oui.
Pascal. Pascal, oui.
Quoi, Pascal?
Ça pourrait être Pascal, ça. Non. Plus.
C'est le pari, quand même.
Bah non,
c'est... Non, ça,
Dieu m'a donné la foi, c'est quelqu'un.
Saint Augustin.
Saint Augustin. Voilà. Yes. Saint Augustin.
Oh, on a deux points. Dieu m'a donné deux
là,
points.
Là, il faut un 5-2 pour l'équipe.
Vous avez dit la philosophie, Ophélie Winter, c'est enseigné à l'école aujourd'hui.
Elle parie pas si bon, enfin bon. Je ne dis plus rien.
Stéphane contre Régis. Full sentimental, Souchon. Ouais.
Full sentimental, Machiavel.
Alors, on nous inflige des désirs qui nous affligent.
Ah ben ça, c'est Paul de Saint-Germain.
Alors, c'est beaucoup de...
Ouais.
Ouais, ça pourrait être Platon, ça, non, ça, enfin...
Ça pourrait être...
Non, alors là, pardon, ça pourrait être Baudrillard et la société de consommation, Muret. Par exemple, voilà.
Et non,
Philippe Muret.
Oui, aussi, non. Philippe Muret.
Ah, bah, si.
Et non, c'est
Philippe Muret, c'est l'homme festif. C'est l'homo festivus, Philippe Muret, c'est pas tout à fait ça, c'est contre la fête, tout le temps.
Stéphane, je vous vois, là.
Allez, je donne un point à Stéphane.
Un point à Stéphane. On continue, alors, Frédéric contre Eric, allez.
Hervé Léonard, pour le plaisir.
Épicure.
Épicure de nouveau. Hein.
Oui,
ça c'est sûr.
C'est la suite de la queue leu-leu.
Trois points là.
Mais alors, c'est pas mal. Ça.
Vous êtes bon en philo, mais nul en chanson. Hein.
Oui, mais ça on le savait qu'il était meilleur en philo qu'en chanson. Oui, on est un peu déçus là.
Frédéric.
Feuille, cachez votre feuille.
6 à 4.
Ah, attention.
Je regarde pas.
Régis contre Stéphane. Tombé. Ah oui,
Cookie Dinger. Simone de Beauvoir.
Oui.
Yes.
Yes.
Bravo.
Une femme.
6 partout.
6 partout. Voilà, là. Alors attention. Alors là, je suis très embêté parce que on va donner le bonus à celui qui trouvera le philosophe puisqu'il reste plus qu'une chanson. Oui. D'accord. Donc. Allez-y, contre Joël.
Ah non.
Non.
Pierre Perret.
Freud.
Pierre Perret.
Ah
ouais, vendu. Ouais,
bravo.
Ouais.
Exact.
Ah, Stéphane qui
en fait,
c'est beau.
Et Stéphane est meilleur en philo que moi aussi.
Oui.
Il est bon en chanson et en philo.
Il est très bon dans les deux.
Freud, Zizi, c'est Freud.
Spécialiste du Zizi.
Moi j'ai une proposition, on pourrait recommencer au début.
Alors, c'est donc Marisol qui habite au Pau, elle est de chez vous, elle est paloise.
Ah, bah, très bien.
Vous faites gagner.
Mais ça ne parle pas Marisol Touraine. Hein.
Non, non,
pas
non, loin. Non, elle pas loin. Eh bien, c'est elle, elle qui loin, gagne ce week-end au château de Montvillargennes. Il ne me reste plus qu'à remercier notre philosophe Frédéric Lenoir, philosophé et médité.
Bravo.
Avec les enfants et par merci. Les enfants aussi.
Exactement.
Hein. Parce que ce sont des paroles, il y a des paroles très sages de tous ces enfants avec un CD de méditation guidée et c'est publié chez Albin Michel. Voilà. Demain, nous serons avec une grande créatrice de mode, Diane Furstenberg.
C'est la sœur de Karl Lagerfeld.
C'est elle qui a inventé la robe portefeuille.
Oui, ah, bah je la mettrai du coup pour l'occasion.
Eh bien, nous serons avec elle demain matin dans La Bonne Heure. Merci à tous d'avoir suivi. RTL, il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.